mais ne m'attends pas,
Jamais de la... VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 26 septembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer les titres, l'ex-dictateur Dadis Camara rentre en Guinée en vue de son procès. Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Mimi Touré lâche le président Macky Sall. 16 cas d'Ebola ont été confirmés en Ouganda depuis mardi. En Somalie, au moins 7 morts dans un attentat suicide des Chebabs devant un camp militaire à Mogadiscio. Victorieuse, la patronne de l'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, promet de gouverner pour tous les Italiens. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Ongpatine ainsi que, dans nos dossiers du jour, une interview avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Pour l'instant, le journal. L'ex-putschiste Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée pour répondre devant un tribunal avec 10 autres accusés de sa responsabilité dans le massacre de septembre 2009 à Conakry. C'est ce qu'a annoncé un de ses avocats, maître Pépé Antoine Lama, selon lequel il est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Conakry pour répondre à sa convocation liée au procès du 28 septembre, Nathalie Barge.
Dadis Camara est en lieu sûr pour raison de sécurité et reçoit quelques amis, a précisé Maître Lama. Des proches ont déclaré qu'il était rentré au Burkina Faso pour laver son honneur devant les juges en Guinée. Arrivé au pouvoir en 2008 à la faveur d'un coup d'État, le capitaine Camara fait partie des 11 anciens responsables appelés à comparaître mercredi pour les exactions commises en 2009 au stade du 28 septembre lors du rassemblement de sympathisants de l'opposition, réunis pour le dissuader de se présenter à la présidentielle de 2010. Selon l'ONU, 156 personnes ont été tuées et au moins 109 femmes ont été violées. En décembre 2009, l'aide de camp du capitaine Camara, Aboubakar Siddiqui Diakité, chef de la garde présidentielle et présent en personne au stade, lui avait tiré dessus. Il accuse Camara d'avoir commandité le massacre. Les accusés ont eu l'interdiction de quitter le territoire. Certains sont en détention depuis des années. Un collectif d'avocats qui défend 4 accusés a indiqué que leurs clients ont été convoqués au tribunal la veille du procès. Ces avocats ont déclaré qu'ils boycotteraient le procès si les accusés subissent une détention arbitraire avant le procès.
Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Mimi Touré a annoncé dimanche sa démission du groupe soutenant le président Macky Sall au Parlement et en liant sa décision à son opposition à un troisième mandat présidentiel de M. Sall. Madame Touré a justifié sa démission par sa mise à l'écart à la dernière minute du poste de présidente de l'Assemblée élue en juillet. La question centrale, qui au fond est à l'origine de tout ceci, est celle d'un troisième mandat. Impossible juridiquement, impossible moralement, a-t-elle dit à la presse. Madame Touré a dit aussi qu'elle pensait très sérieusement à la présidentielle de 2024. En attendant, elle sera, avec les non-inscrits, le camp présidentiel et, avec ce retrait, dans une situation délicate, n'ayant conservé sa majorité absolue qu'à une voix près, à la faveur du ralliement d'un député d'opposition. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a procédé samedi soir à un léger remaniement gouvernemental marqué par le limogeage du ministre des Finances selon un décret lu à la télévision d'État par son directeur de cabinet Florent Siba. Le nouveau gouvernement compte 37 membres dont 5 ministres d'État. De nouveau, Nathalie Barge.
Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Rigobert Roger Andelli, accusé de mégestion par une source pro-gouvernementale, a été remplacé par Jean-Baptiste Ndaye, qui était jusque-là secrétaire général de la présidence. Le Premier ministre Anatole Kolyné-Makosso, nommé après la quatrième présidentielle remportée par Denis Sassou-Nguesso en mars 2021, reste à son poste. Lydie Pongo a été nommée ministre de l'Industrie culturelle et le conseiller politique du président, Juste Désiré Mondele, a été nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Membre influent de la formation d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Honoré Saïd, précédemment ministre de l'énergie et de l'hydraulique, hérite du portefeuille des transports et de l'aviation civile. Souvent présenté comme le dauphin de son père, Denis Christel Sassou-Nguesso conserve le ministère de la coopération internationale et Lydia Jacqueline Nicolo a été reconduite ministre des petites et moyennes entreprises malgré son échec aux législatives en juillet.
16 cas d'Ebola ont été recensés en Ouganda depuis mardi et l'annonce par les autorités de la présence d'une épidémie dans le centre du pays a signalé dimanche le ministère de la Santé. Vendredi, les autorités sanitaires avaient annoncé que 4 personnes étaient mortes du virus d'Ebola en 3 jours. En Somalie, au moins 7 personnes ont été tuées et 9 autres blessées selon l'armée, dimanche à Mogadiscio, dans un attentat suicide contre un camp de recrutement militaire. Attentat revendiqué par les islamistes radicaux Shebab, Rosine Monazero.
Un terroriste s'est fait exploser dimanche matin près d'une file de nouvelles recrues qui sont enregistrées au camp militaire de Naknak, au sud de la capitale somalienne, a déclaré le commandant Abdoulaye Adan, précisant que 7 personnes ont été tuées et 9 autres blessées. L'attaque a été revendiquée par les Shebab. Début septembre, au moins 19 personnes ont été tuées dans le centre du pays par ces islamistes radicaux. 2 semaines plus tôt, les Shebab avaient lancé une attaque contre l'hôtel Hayat de Mogadiscio, faisant au moins 21 morts et 117 blessés lors d'un assaut qui a duré une trentaine d'heures. Le 12 septembre, le président Hassan Cheikh Mohamud a annoncé que les islamistes seraient visés par des prochaines offensives et a appelé la population à se tenir à l'écart des zones qu'ils contrôlent. Mercredi, l'armée américaine a annoncé avoir tué 27 miliciens Shebab dans une frappe aérienne en soutien à l'armée somalienne dans le centre du pays. En mai, le président américain Joe Biden a décidé de rétablir une présence militaire en Somalie, approuvant une demande du Pentagone.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Italie, la patronne de l'extrême droite, Giorgia Meloni, qui veut devenir première ministre après sa victoire aux législatives de dimanche, a tenté de rassurer face aux inquiétudes exprimées dans son pays et à l'étranger. « Nous gouvernerons pour tous les Italiens », a-t-elle promis. Après la Suède, l'extrême droite fait ainsi une nouvelle percée en Europe. La coalition qu'elle forme avec l'autre parti eurosceptique d'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini, et Forza Italia, le parti conservateur de l'ex-premier ministre Silvio Berlusconi, récolterait environ 43% des suffrages, ce qui lui assure la majorité absolue des sièges aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. En Iran, le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Mohseni Ejei, a menacé dimanche de ne faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis des manifestants, après 10 jours de protestations dans tout le pays contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Mahsa Amini avait été arrêtée pour port inapproprié de vêtements dans la République islamique où le code vestimentaire pour les femmes est strict. Ces manifestations ont coûté la vie à au moins 41 personnes. À l'étranger, des manifestations soutenant le mouvement en Iran ont eu lieu dans plusieurs pays samedi et dimanche. Les États-Unis ont demandé via des canaux privés à la Russie de mettre fin à son discours agitant la menace nucléaire dans la guerre en Ukraine, une arme dont l'utilisation aurait, prévient Washington, des conséquences catastrophiques. Le Parti communiste chinois a annoncé dimanche avoir élu tous ses délégués pour son prochain congrès qui débutera le 16 octobre et devrait permettre au président Xi Jinping d'obtenir un troisième mandat inédit à la tête du pays. Les autorités canadiennes déploraient dimanche d'immenses dégâts dans l'est du pays après le passage de l'ouragan Fiona, tandis que la Floride et Cuba se préparaient à l'arrivée prochaine de la tempête Ian. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon le rapport sur la richesse mondiale 2022 du groupe bancaire Crédit Suisse, la fortune privée en Afrique s'est établie à 5 808 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une hausse de près de 8% par rapport à l'année précédente. Sur le continent africain, la fortune moyenne par adulte a progressé de 4,7%. La richesse mondiale s'est établie à 463 600 milliards de dollars, soit une hausse de 9,8% sur une année, indique le Global Wealth Report. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une plateforme dédiée aux fournisseurs de l'État. Le portail e-fournisseur vise à réduire les délais de paiement des factures des prestataires de l'État. La plateforme accessible en ligne a pris en compte le nouveau délai de paiement qui est notamment de 30 jours pour les factures de moins de 30 millions de francs CFA et de 60 à 90 jours pour les sommes plus élevées. Les fournisseurs pourront suivre toutes les étapes du processus en ligne. En Éthiopie, le gouvernement a résilié le contrat d'exploration avec la compagnie pétrolière chinoise Poly-GCL, active depuis 2013 dans le bassin de l'Ogaden. La décision est liée à l'incapacité opérationnelle de la société de tenir ses engagements contractuels. En mars, l'administration avait notifié à l'entreprise que le non-respect des conditions minimums de travail sur le site entraînerait la rupture du contrat.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la suite des matchs amicaux disputés par les sélections africaines.
Oui, et ok, le Niger n'a pu faire qu'un nul 0-0 face au Libéria. Aujourd'hui, le Mali rejoue la Zambie qu'il avait contrée au nul vendredi dernier. La suite demain avec notamment Sénégal, Iran, Cameroun, Corée du Sud, Brésil, Tunisie, Maroc, Paraguay ou encore Ghana, Nicaragua. Enfin, entre autres, RDC, Sierra Leone, Guinée, Côte d'Ivoire, Algérie, Nigeria, Comores, Burkina Faso, Bénin, Madagascar et puis Togo, Guinée équatoriale.
Football toujours, on a joué le premier tour préliminaire des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Et on connaît déjà un qualifié, l'Angola, double vainqueur de la Namibie. Au second tour, elle affrontera le Cameroun. Et c'est presque validé pour Madagascar, qui a étrié les Seychelles 5-0, ainsi que la Libye et le Mozambique, qui ont dominé respectivement le Rwanda 4-1 et l'île Maurice 3-0. À noter que 8 équipes seront qualifiées pour la dernière phase, qui aura lieu en novembre 2023 au Maroc. Et les 3 premiers représenteront le continent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
En attendant de connaître les qualifiés pour l'édition de 2024, l'Égypte a montré son intention de se porter candidate à l'organisation de 2036.
Oui, l'annonce faite à l'occasion de la visite dans le pays du président du Comité international olympique Thomas Bach. Cette candidature sera basée sur le projet de construction de la future cité olympique, un complexe sportif de type moderne réalisé dans la nouvelle capitale administrative du Caire. Mais pour l'heure, le processus d'attribution de ces Jeux n'a pas encore commencé.
Du volley-ball à présent, les championnats du monde féminin se poursuivent aux Pays-Bas.
Et ça ne se passe pas bien pour les deux nations africaines en lice. 2 défaites en 2 sorties. Les Kenyans battus 3-7-0 par la Belgique. C'est sur le même score que les Camerounaises ont perdu face aux Pays-Bas. Les deux équipes s'affrontent demain mardi afin de se relancer dans la compétition.
En basketball, ça se passe mal aussi pour le Mali, seul représentant africain à la Coupe du Monde féminine.
Exactement, Idrissa. Troisième match de groupe et troisième défaite. Cette fois face à la France, score 74-59. Les Maliennes gardent tout de même une chance de qualification pour le second tour, à condition de remporter leurs deux derniers matchs. Et ça passe d'abord par une victoire aujourd'hui contre la Serbie.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies et après le discours du Mali à la tribune de l'ONU, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a donné une interview exclusive à La Voix de l'Amérique. Dans cet extrait, Dilly Diko l'interroge sur les suites du sommet de la CDAO à New York. Pour rappel, les dirigeants ouest-africains ont exigé la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et au cours de la semaine, une délégation de la CDAO se rendra à Bamako pour tenter de régler le dossier. Monsieur Diop, sur les attentes du Mali concernant la rencontre à venir, ainsi que sur une éventuelle solution à la question des 46 soldats ivoiriens.
Dans ce contexte, la CDAO s'est saisie de ce dossier. Le Mali estime qu'il s'agit là d'un dossier bilatéral entre deux pays frères, qui ont un différend, qui doivent trouver les moyens par le dialogue de pouvoir le régler. Et la contribution des autres est naturellement bienvenue. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'un dossier différent de la CDAO. Et le Mali n'a pas été entendu pendant cette discussion, même si on est sous sanction. On ne sait pas sur quelle base ces décisions ont été prises. Et toutes les décisions qui sont prises sont totalement en faveur juste de la Côte d'Ivoire. Le Mali s'est dit ouvert à un règlement par la voie diplomatique et par le dialogue. Je crois que ces deux voies sont parallèles et se poursuivent. Et c'est dans ce contexte que nous avons procédé le 3 septembre à la libération de trois femmes soldates du contingent, ce qui laissait présager, en tout cas, des discussions plus approfondies pour la suite des éléments qui, pour le Mali, impliquent la nécessité d'avoir un certain nombre d'engagements de garantie par rapport au fait que la Côte d'Ivoire cesse d'être une base arrière pour déstabiliser notre pays.
Quand vous parlez de déstabilisation, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ?
Mais je pense que c'est de notoriété publique que plusieurs personnes sous mandat d'arrêt international du Mali sont en Côte d'Ivoire et certaines de ces personnes s'adonnent à des activités hostiles et à des déclarations hostiles vis-à-vis de l'État malien avec le soutien des autorités ivoiriennes. Il y a une personne qui s'est déclarée président du Mali en Côte d'Ivoire, président de la transition et qui a demandé aux Maliens de se soulever contre les autorités. Je ne pense pas qu'il y ait une action judiciaire quelconque qui ait été entreprise. Donc il y a une série d'actions qui sont hostiles et des déclarations hostiles aussi d'autorités ivoiriennes à l'endroit des autorités maliennes avec vraiment des appréciations très négatives qui ne sont pas acceptables.
Les ministres de la Défense du G5 se sont réunis à Niamey. Ils insistent sur le retour du Mali au sein de l'organisation. Est-ce que vous comptez retourner dans le G5 ? Et si oui, est-ce que vous avez les conditions pour y retourner ?
Je dois vous dire que le Mali a quitté le G5 pour les conditions que vous savez. Nous ne l'avons pas fait de gaieté de cœur. Les droits de l'État malien ont été niés, contrairement à tous les textes de l'organisation pour que notre pays assume la présidence de cette organisation. Malgré les nombreuses mises en garde, nous n'avons pas été écoutés. Donc nous nous sentions désormais à l'étroit dans cette organisation, d'autant plus que le donneur d'ordre, qui est la France, qui parraine cette organisation, c'est elle qui s'est opposée avec un autre État membre du G5 Sahel à ce que le Mali assume sa présidence. Pour le Mali, nous avons les mêmes droits que tous les autres États membres et on ne peut pas accepter d'être dans une organisation et être considéré comme des citoyens de seconde zone. Maintenant, la décision qui a été prise, c'est une décision de retrait du Mali et cette décision de retrait a été actée et les instruments de retrait du Mali ont été déposés auprès du secrétariat du G5 transmis à tous les États. Le retrait du Mali est définitif, nous l'avons indiqué.
L'intégralité de cette interview avec Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, est disponible sur notre site voaafrique.com.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Tchad, le syndicat des magistrats et les syndicats autonomes sont passés à une vitesse supérieure après avoir observé un arrêt de travail dans toutes les juridictions du territoire national. Ils déclenchent maintenant une grève illimitée pour exiger la revalorisation de leur salaire, la dotation en armes de poing pour assurer leur propre sécurité. Le silence continu du gouvernement fait réagir les organisations de la société civile. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
En ce qui concerne la dotation en armes de poing, nous avons reçu partiellement un nombre de 367 magistrats a reçu les armes de poing. Mais en ce qui concerne le traitement des salaires, le chef de l'État a instruit le gouvernement, mais jusqu'aujourd'hui, aucun acte n'a été posé.
Zadadine Adoum, secrétaire général adjoint du syndicat des magistrats du Tchad. Pour lui, en tant que troisième pouvoir, les magistrats veulent être traités au même titre sur le plan salarial que les conseillers nationaux qui incarnent le pouvoir législatif. Une situation qui a fait réagir les responsables des organisations pour la défense des droits de l'homme.
Pourquoi est-ce que tous les magistrats ne peuvent pas avoir la possibilité de détenir ces armes, puisque c'est tous les magistrats qui sont exposés? Une autre question, c'est lesquels des magistrats qui ont reçu ces armes? Ça, c'est des inquiétudes, c'est des questions que nous nous posons.
Mingengai Burumbe, présidente du collectif des associations pour la défense des droits de l'homme. Pour elle, le gouvernement ne doit pas privilégier certains au détriment d'autres.
L'idéal, c'était de satisfaire tous les magistrats ou de sursoir et attendre, réunir les conditions avant de mettre à leur disposition ces armes. En exerçant ce droit de grève, il y a une répercussion également sur les détenus et c'est vraiment déplorable cette situation. En passant de grève de 2 semaines à une grève sèche et illimitée, nous nous posons la question sur l'avenir de ces détenus. Nous en interpellons le gouvernement pour pouvoir se pencher sur la question, pour permettre aux magistrats d'entrer dans leurs droits, mais aussi aux détenus de pouvoir être jugés avant qu'ils ne puissent purger ou non leur peine.
Une grève qui paralyse toute la chaîne judiciaire. Les présumés victimes des différentes contraventions sont gardés dans les antennes de la gendarmerie et les commissariats en violation du délai de garde à vue qui est de 48 heures renouvelable sur ordre du procureur de la République. Nagriyam Yoyam, coordonnateur national de l'association Caméra au service des droits de l'homme, demande au gouvernement de transition de penser à ses concitoyens en conflit avec la loi et qui attendent à ce que le droit soit dit.
Il y en a qui attendent à être jugés, il y en a qui attendent à être libérés, mais faute de greffe, ils continuent à croquer dans les prisons. Cela constitue aussi une violation aux droits de l'homme. J'appelle franchement le gouvernement à revoir sa politique et essayer d'aller dans le sens du dialogue pour pouvoir trouver un point de vue qui puisse aider ceux-là qui sont en greffe d'entrer aussi dans leurs droits et que ces prisonniers, c'est des Tchadiens.
Les justiciables et les demandeurs de documents administratifs, notamment les casiers judiciaires, quant à eux, tournent en rond dans les palais de justice et c'est toujours le silence du côté des autorités judiciaires. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique. Nous entamons cette semaine une série d'enquêtes sur les travailleuses domestiques. Aujourd'hui, le Gabon. La majorité de ces femmes vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Entre le travail pénible et la précarité du salaire, découvrons ensemble qui elles sont et comment ces femmes gèrent leur statut social. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Cuisinières, nourrices ou femmes de ménage, les travailleuses domestiques sont indispensables à de nombreuses familles gabonaises. Comme Nadine Guéma, beaucoup d'entre elles sont victimes de mépris dans leur travail et sont souvent traitées comme des moins que rien.
Quand les gens passent, ils ne respectent pas ce que je fais. Quoi. Le sol est mouillé, quelqu'un ne se gêne pas, il passe sans s'excuser.
Souvent aussi injurieux, non?
Mais oui, si tu te plains, tu te dis, ben, c'est ton travail, tu es payé pour ça. Être dame de ménage, c'est que vous n'avez pas appris.
À Libreville, les fées du logis ont souvent pour tâche de ranger, nettoyer et embellir des maisons de familles aisées pour de petits salaires entre 50 000 et 75 000 francs CFA par mois.
Quand vous êtes logé chez cette personne, vous êtes dans les 150 000. Vous pouvez atteindre les 150 000. Mais quand vous venez juste pour une certaine heure, c'est-à-dire de 8 heures à 15 heures, 14 heures, c'est la moitié.
Aussi, les chantages et maltraitances sont récurrents dans le milieu. Paola Zengi, ancienne travailleuse domestique, est passée par des épisodes difficiles dans les ménages.
Vous pouvez tomber sur une famille de gens vraiment malhonnêtes, dire par exemple que voilà, 150 000 ou 50 000 a disparu dans la maison, et c'est cet argent qui devait être votre salaire de la fin du mois, ben on ne vous payera pas cette fin du mois. Donc il y a des situations diverses.
Activités sous-estimées et ou contraignantes. Une liste non exhaustive des plaintes qui font frissonner Barbara Moussavou, cette jeune fille mère, est pourtant à la recherche d'une activité génératrice de revenus.
J'ai envie de gérer mon temps et avoir du temps aussi pour moi, pas seulement pour l'argent.
Entre le chômage et ça, vous préférez être au chômage?
Mais il n'y a pas que technicien de surface pour sortir du chômage. Il y a beaucoup de choses à faire. Je veux par exemple mettre un étalage devant ma porte, je travaille.
La profession n'est pas encore organisée, mais en cas de conflit, l'inspection du travail peut départager les protagonistes. Maître Gisèle Ehui est avocate au barreau du Gabon.
À défaut de conciliation, l'inspection du travail transfère le dossier sans délai devant le tribunal du travail qui va statuer ce que de droit.
Les travailleurs domestiques au Gabon, comme un peu partout sur le continent, sont toujours taillables et corvéables, puis rejetés dans les rues suivant l'humeur ou la volonté de leur maître. À Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au lendemain de la seconde alternance politique de 2012, ils étaient considérés au Sénégal comme des super-héros dans la lutte contre le troisième mandat de l'ex-président Abdoulaye Wade. Depuis, les activistes et militants pour la démocratie ont perdu beaucoup de leur lustre, en partie à cause des démêlés judiciaires de certains d'entre eux. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagué.
Cité et écroué dans l'affaire des trafics de passeports ou accusé de collaborer avec des lobbies étrangers, entre autres, certains activistes de renom du mouvement Yanamar et d'autres associations ont vu leur popularité en chute libre auprès des citoyens. Fara Diop affirme qu'il n'a jamais eu confiance en ces défenseurs autoproclamés de la population.
Moi, personnellement, je ne crois pas du tout aux activistes et en me basant tout simplement sur le problème de Yanamar, je pourrais dire que l'histoire m'a donné raison. Tout ce que je vois, c'est que les activistes sont là que pour leurs intérêts personnels. Leurs soi-disant mouvements que nous voyons sont juste des stratégies mises en place pour chercher de l'argent.
De son côté, Ousmane Sossé place ses faits dans la case des erreurs humaines. Pour cet étudiant, les Sénégalais ont la gâchette facile lorsqu'il s'agit de tirer sur les activistes.
Je pense que l'erreur même c'est humaine.
En tout cas, je pense que l'erreur est humaine et que tout le monde peut en faire. Je prends l'exemple de Simon du mouvement Yanamar. Avec son problème de trafic de passeports diplomatiques, tous ces détails, pour moi, peuvent être considérés comme des affaires personnelles. Je veux dire leur manière de gagner de l'argent autrement peut-être. Et que le Sénégalais ne cherche absolument pas à savoir ce qui se passe réellement. Tant qu'ils ont quelque chose à manger ou à boire, pour eux, tout va bien.
Ne se pose pas la question là.
Pour le socio-anthropologue Malik Ndiaye, les citoyens sont juste devenus plus exigeants.
On croyait peut-être qu'ils étaient des saints, pour qui peut-être on croyait qu'ils étaient des intouchables également. Mais aujourd'hui, avec un peu leur parcours, un peu dérisoire, on peut maintenant voir que des Sénégalais prennent maintenant la chose avec beaucoup de pincettes. Vous allez même voir que maintenant dans les débats, voilà, ils sont fustigés, ils sont pointés du doigt. Voilà, parce que maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui leur ont été reprochées. Maintenant, ça ne va pas dire que d'autres activistes ne vont pas peut-être naître.
Avec les réseaux sociaux, les Sénégalais sont maintenant beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans leur pays et deviennent par la même occasion plus stricts envers ceux-là qui veulent s'arroger le droit de les représenter. Certains activistes et militants qui ont été des éléments centraux de la deuxième alternance politique du pays sont aujourd'hui moins considérés à cause de leur implication dans de nombreux dossiers judiciaires. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoulia. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. À la console, Jonah Cummings. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.